France Inter, le 18-20.
Savez-vous ce que c'est l'insulte la plus commune dans les cours d'école ? PD. 18% des jeunes LGBT+ disent avoir été insultés ces 12 derniers mois. 72% disent que leur expérience scolaire a été mauvaise ou très mauvaise. En ce moment, partout à la télé, on voit Bilal Hassani. Il va participer pour nous à l'Eurovision. Heureusement qu'il a une personnalité bien affirmée, Bilal, parce que les remarques homophobes pleuvent sur lui. Il a d'ailleurs porté plainte et il raconte, il l'a fait sur France Inter hier, combien sa scolarité a été difficile. La cour d'école est cruelle. Pour ces jeunes, insultés, discriminés, ça veut dire parfois échec scolaire, ça veut dire décrochage, ça veut dire comportement suicidaire. Aussi, le risque de suicide chez les jeunes LGBT+, il est 4 fois supérieur aux jeunes hétéros. Et c'est pour ça, et parce que les signalements ont augmenté de 38% l'an dernier, qu'une campagne contre l'homophobie et la transphobie a été lancée en milieu scolaire aujourd'hui. Ça suffit, dit le slogan. Tout ça s'accompagne d'explications pour les profs, notamment parce qu'il faut savoir répondre aux jeunes brimés, moqués, discriminés, pour ne pas les voir s'effondrer. Et parce qu'il faut aussi parler aux harceleurs, aux ignorants, aux imbéciles. Cette période de l'adolescence est celle où on est plein de clichés, on est plein de préjugés, où être différent de l'autre, c'est un problème. C'est un âge où on se questionne, un âge où on doute, c'est donc un âge fragile et c'est important. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Rose, bonsoir. Tu as 12 ans et demi, Rose, on peut se tutoyer, c'est toi qui commence.
Oui, bonsoir. En fait, je venais pour témoigner et pour donner un conseil de lecture pour les ados comme moi, et même pour les adultes. Hein. Enfin, voilà, c'est ça.
Et alors, le conseil de lecture, c'est quoi ?
Alors, le conseil de lecture, c'est un manga que j'ai lu. Alors, pourtant, je suis pas hyper friande de manga, mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé génial, qui s'appelait Éclat d'âme, avec le S entre parenthèses. Et donc, je sais plus combien il y a de tomes, mais en tout cas, moi, j'ai lu les deux premiers. Et donc, qui est de Yuki Kamatani. Et donc, qui est en fait un manga qui raconte un jeune garçon japonais qui est au lycée et qui en fait fait son coming out un peu contre son gré. Et on découvre qu'il est gay et en fait il pense à se suicider et il trouve en fait un espèce de gîte, un salon de discussion où en fait il y a plein de gens de la communauté LGBT, des jeunes surtout, et puis aussi un vieux monsieur, tout ça, qui se réunissent pour vivre ensemble et pour discuter, pour apprendre à communiquer et surtout à se dire c'est pas grave, même si on est harcelé, même si on vit pas bien avec ça, même s'il y en a qui se sont pas encore reconnus comme tels, on veut aider et on veut surtout ne plus être embêté, quoi.
Et dit Rose, il circule bien ce manga ou pas du tout en fait dans les écoles?
En fait, ouais. C'est parce que dans mon collège, je fais partie du club de lecture et du coup, on en a parlé dans le club de lecture car on fait en fait un projet sur la diversité dans mon collège, pas dans mon collège mais dans ma bibliothèque où je vais souvent, où il faut lire des livres avec par exemple une auteure ou une autrice noire ou avec un personnage principal qui n'est pas mince ou qui fait partie de la communauté LGBT. Et donc, dans le cadre de ce projet, il y a une des bibliothécaires qui nous a présenté ce manga. Et moi, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, je l'ai lu. J'ai lu les deux premiers tomes. Et c'est vraiment super. Et les dessins sont très jolis, tout ça.
Écoute, formidable. On a retenu Éclat d'âme, c'est ça.
Et
on
le retrouve. Yuki Kamatani.
On le retrouvera comme ça. Mais du coup, tant que je te tiens, Rose, moi, j'ai une question subsidiaire. Comment ça se passe? J'imagine que tu le vois, toi, dans le collège. À 12 ans et demi, on est en quelle classe déjà?
En cinquième,
voilà. J'imagine que tu le vois, donc tu les entends, les remarques, tu les vois peut-être certains de tes amis LGBT qui sont peut-être toujours dans le placard. Comment ça se passe? Est-ce que la complexité qu'on racontait tout à l'heure en introduction, est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'on le sent? Est-ce que toi t'es capable d'aller leur parler en fait? Comment ça se passe?
En fait, ce qui est compliqué à mon âge, en tout cas, c'est que comme on est en cinquième, c'est un peu l'heure, on va dire, des premiers amours. C'est-à-dire qu'on sait pas vraiment encore de qui on est amoureux, ni rien. C'est encore un peu neuf, on va dire. Et frais. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas tellement vu des personnes qui se sentaient complexées par ou insultées parce qu'ils ont été insultés. Mais en fait, si quelqu'un dans ma classe est gay, je me dis, ou lesbienne, qui fait partie de la communauté LGBT, je me dis ça doit être assez dur parce qu'en fait l'insulte PD ou d'autres insultes homophobes sont devenues un peu tellement
banal, en fait, c'est ça,
dit, tellement fréquent, qu'en fait c'est presque devenu une blague. Et qu'en fait, moi au début, quand j'entendais ça, j'essayais de m'interposer en disant c'est pas une insulte, enfin faut pas le dire, c'est pas censé être une insulte d'être gay ou d'être pédé. Et mais en fait c'est maintenant les gens ne le font plus, parce que à chaque fois on s'est rembarré. Et puis même si c'est dans le cadre d'une blague en disant ah là là il était pédé, bah moi je trouve ça choquant, et je sais qu'il y en a d'autres qui trouvent ça choquant. Et quand je demande aux gens, je leur dis mais ça vous choque pas que les gens disent ça, et ils disent bah non, c'est devenu presque courant. Et les gens en fait en rigolent un peu, c'est-à-dire que on dit ah là là il est pédé, et tout le monde dit ah ah c'est marrant, enfin tout le monde rigole. Et c'est ça que je trouve le plus choquant, c'est que ce soit tellement rentré dans le vocabulaire que ce soit même plus un sujet de discussion. C'est-à-dire que les gens disent oui, c'est vrai que c'est pas très sympa, mais c'est une blague, enfin mais c'est pas une blague, c'est une insulte. C'est comme si on disait quelque chose à... enfin c'est une insulte, c'est pas une insulte, mais c'est aussi une insulte dans le sens où c'est considéré comme une insulte par celui qui l'a dit ou le dit.
Eh ben Rose, merci beaucoup, grâce à toi on a bien résumé les choses, donc vous pouvez cesser d'appeler, téléphone sonne. non je plaisante, surtout appelez-nous pour enchaîner sur ce que vient de dire Rose, pour discuter autour de tout ça. Clémence Amora Cruz est là, bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT. Bonsoir Joël Demier.
Bonsoir.
Président d'SOS Homophobie. Joël Demier, je vous voyais faire oui avec la tête. Vous le connaissez le manga dont parlait Rose à l'instant?
Oui, parce que je crois qu'on a un partenariat avec ce manga SOS Homophobie. Et c'est un manga qui est très beau, qui est très joli et qui a un très beau message d'ouverture, d'inclusion, de tolérance.
Et il y a plein de choses dans ce que dit Rose, et notamment ce qu'elle disait à la fin sur la banalité, en fait. Traiter quelqu'un de PD, Clémence Amora Cruz, c'est ouais, mais c'est pas grave, en fait, c'est pas méchant. Bah oui.
On l'entend tous les jours, en fait. On l'entend dans les couloirs, on l'entend dans les cours des récréations. On les entend parfois même en classe, hein, quand on entre en cours, et parfois il y a quelqu'un qui est en train de dire à quelqu'un, non, mais t'es un PD. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est quand même difficile à...
Alors que vos étudiants sont, enfin, vos élèves sont beaucoup plus vieux, hein. Ils commencent à 17
oui,
ans.
Oui, mais donc c'est autre chose. Dans l'homophobie, il n'y a pas d'âge.
Alors on est d'accord, mais il y a des choses qu'on... Alors je ne vais pas donner d'excuses, mais des fois on ne sait pas de quoi on parle à 12 ans. Quand on en a 17, on sait exactement de quoi on parle, là, pour le coup. Ouais.
Mais c'est parfois très intériorisé, en fait. Cette homophobie, elle est intériorisée. Et parce qu'il y a la négation, en fait, de l'insulte, en fait. Quand on explique qu'il faut pas, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire, parce que c'est une insulte, parce que ça blesse les personnes, et parce qu'on est en train de stigmatiser quelqu'un, très souvent, on se défend d'être homophobe, en fait, on se défend d'être LGBT-phobe, on se défend d'être malveillant, en fait. Et toute la difficulté, c'est de désamorcer toute cette homophobie et expliquer, trouver les mots et justement mettre l'accent sur cette action qui est une violence épouvantable pour la personne qui reçoit le message.
On va parler des clés qu'il peut y avoir, mais Joël Demier, elle a raison, Rose, quand on a 12 ans, 13 ans, c'est pas très bien, où est notre sexualité, on est dans cette espèce de moment comme ça où on sait pas qui on aime, on sait pas exactement qui on est. Il faut être sacrément fort, sacrément courageux pour se dire ouvertement LGBT quand on a 12, 13 ou 14 ans.
Bien sûr, déjà, je vous salue le discours de Rose qui est exemplaire, qui est très mature et c'était un plaisir de l'entendre. Oui, vous avez raison, quand on est un jeune LGBT, une jeune LGBT, bien souvent, on peut être victime d'insultes à l'école, dans les cours de récréation, de coups aussi. Et bien souvent, c'est quelque chose, un phénomène qui est caché, qui est tabou. Et donc, en fait, le vrai message à délivrer aux jeunes LGBT qui nous entendent, ou même aux personnes qui sont victimes d'homophobie alors qu'ils ne sont pas LGBT, ça peut arriver, hein, quand vous ne correspondez pas aux stéréotypes de genre standard.
Bien sûr, tout à l'heure, il faut ressembler à tout le monde quand
exactement.
On a cet âge-là.
Voilà, et bien, vous êtes une proie et vous pouvez être victime d'homophobie sans être une personne LGBT. Et la clé dans tout ça, c'est d'en parler aux adultes, à des personnes de votre entourage. Et il ne faut pas rester seul, parce que le principal écueil dans ces cas-là, c'est l'isolement de la victime, c'est le repli sur soi qui donne lieu à de l'échec scolaire, vous l'avez dit, à des tentatives de suicide parfois plus élevées chez les jeunes LGBT que chez les jeunes hétéros. Et donc en fait, la lutte contre l'homophobie chez les jeunes, c'est un enjeu de santé publique. Et c'est pas la raison pour laquelle nous, on salue la campagne qui est sortie par
Jean-Michel
Blanquer.
Ça suffit.
Ça suffit. Stop à l'homophobie et à la transphobie. Pour la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale, une campagne mentionne la transphobie, c'est-à-dire la haine contre les personnes trans. Clémence pourra en parler mieux que moi, mais c'est l'inclusion des personnes trans dans le milieu scolaire est un vrai enjeu. Et également, il faut déconstruire les stéréotypes, combattre les préjugés, parce que ce qui est à l'origine de l'homophobie, bien souvent, c'est des idées reçues, c'est des préjugés.
Et on essaiera de voir comment on fait justement pour essayer de... Qu'est-ce qu'on apprend? Quelles sont les clés qu'on donne, y compris aux enseignants qui parfois sont un peu déroutés, à la fois devant les phrases de ceux qui harcèlent et devant le désarroi de ceux qui le sont. Bonsoir Régis.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Régis. On vous écoute.
Oui, donc je suis enseignant en collège, je suis en fin de carrière, je suis dans la région de Montpellier. Et ce que je vois et ce sur quoi je m'interroge, on parle donc des violences en milieu scolaire par rapport aux LGBT. J'ai quand même l'impression, quand je me penche sur mon passé, passé de lycéen puis passé d'enseignant, que les outings se font de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, ce qui explique peut-être malheureusement une hausse justement des violences en milieu scolaire. Mais ce qui a aussi un effet peut-être positif, c'est que ces violences-là se passent à une époque où il y a encore des adultes dans l'environnement pour servir de médiateur et amener peut-être justement une réponse, un semblant de réponse. Plutôt que, quand j'avais 20 ans, les outings se faisaient à l'âge adulte et là, les réactions arrivaient vraiment sans filtre.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Régis, l'enseignant, quand vous êtes confronté dans la cour, en classe ou je ne sais où, à une insulte homophobe ou transphobe, comment on répond à ça? Comment on remet du sens pour bien dire, attendez, oui, c'est une insulte, on n'a pas le droit de le faire? Comment vous faites, vous?
Alors, je n'ai pas eu très récemment ce genre de situation, mais je suis dans un collège pour lequel il y a, on va dire, un alignement des planètes qui fait que depuis quelques années, les choses se sont fortement arrangées. Et je pense qu'on ne vise pas un type de violence, mais on vise en fait toutes les violences. C'est-à-dire, on cherche quand même à avoir une ambiance apaisée, à effectivement arrêter toutes les violences, les gestes déplacés entre garçons et filles, toutes les petites bagarres, mais à donner aussi les conditions propices à cela, c'est-à-dire des lieux calmes, une réponse aux problèmes d'échec scolaire, une vraie prise en compte des personnes en difficulté. On a, bon, comme tous les collèges, bien entendu, pas mal d'élèves handicapés, avec des handicaps légers ou plus ou moins forts, mais il y a une réelle prise en compte de ces différents handicaps, et donc ce n'est pas un type de violence qui est pris en compte, mais un ensemble de violences. Et également, par contre, quand il y a une violence forte qui arrive, les sanctions arrivent très rapidement et de façon très sévère. Ce qui fait que les jeunes ont quand même la sensation que quand ils vont voir un adulte, il va y avoir une réponse derrière, il va y avoir une solution.
Merci beaucoup Régis pour ce témoignage. Joël Demier, un outing de plus en plus jeune, c'est vrai qu'on ose s'outer beaucoup plus jeune aujourd'hui selon vous?
Oui, les jeunes font de plus en plus tôt leur coming out, c'est-à-dire s'affirment de plus en plus tôt comme étant LGBT. Et ça montre bien que finalement la société elle progresse, elle évolue malgré les chiffres dramatiques qu'on évoquait au début de l'émission, une augmentation de 38% des signalements d'actes homophobes. Il y a quand même une progression des mentalités, une évolution des mentalités. Mais dans la communauté éducative et dans la communauté enseignante, il y a en effet des enseignants qui ne tolèrent pas l'homophobie ou le racisme ou l'antisémitisme et qui interviennent systématiquement. Mais hélas, sur l'homophobie, il y a encore des enseignants qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'eux-mêmes soient taxés, entre guillemets, d'être homosexuels. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut prévenir en formant peut-être mieux les enseignants, en favorisant une meilleure formation des enseignants.
Mais vous y allez par exemple dans les écoles SOS homophobie pour raconter à la fois aux élèves, bien sûr, mais enfin les enseignants sont là. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous leur donnez comme clé en fait?
Nous, on favorise un dialogue avec la classe déjà, donc on éveille les élèves à la lutte contre les stéréotypes sur l'homosexualité, parce qu'on se rend compte que bien souvent le thème de l'homosexualité ou de la bisexualité ou des transidentités n'est jamais abordé et que c'est la première fois quand on intervient que les élèves nous parlent de ces sujets-là. Donc déjà on écoute les élèves et ensuite on se rend compte qu'il y a parfois des peurs, des craintes, un manque d'information aussi et que les élèves dialoguent entre eux. Donc la clé c'est le dialogue, c'est en parler. Briser la loi du silence, en parler, et puis déconstruire les préjugés.
Clémence Zamora-Cruz, comment vous parlez-vous à la fois à vos élèves? Vous disiez que c'était pas rare d'avoir ça dans votre classe, mais aussi peut-être à leur, à vos collègues en fait. Qu'est-ce que vous dites?
En fait, là, on voit qu'il y a actuellement une campagne des sensibilisations, mais cette campagne n'est pas suffisante. C'est pas assez. Si on fait un mauvais jeu de mots, en fait, avec la campagne, ce n'est pas assez. Parce que communiquer et sensibiliser ne veut pas dire lutter concrètement. Et cette lutte concrète doit se passer par des actions concrètes. Ça veut dire de mettre en place des mécanismes pour former les enseignants, parce qu'actuellement, il n'y a pas de formation sur la lutte contre les LGBTphobies au milieu scolaire. Et très souvent, les enseignants se trouvent démunis, en fait.
Alors, alors, effectivement, je comprends ce côté démuni. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire s'il y avait un kit? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait là une espèce de flyer où on leur expliquait, effectivement, on leur donnait 2-3 clés. C'est quoi les clés qu'on leur donne, là, en fait?
En fait, dans la formation, il faut savoir orienter. Ça veut dire que la victime doit être écoutée, elle doit être orientée, on doit leur donner les clés pour savoir se défendre, pour pouvoir dénoncer, externaliser cette violence qu'elle est en train de subir, mais également permettre d'analyser à quel point l'institution peut être aussi violente envers les personnes LGBT. Un exemple, c'est sur les questions des personnes trans au milieu scolaire. Les enfants qui font un coming out trans, actuellement, se trouvent sans soutien de la part de l'administration. Parce qu'on ne sait pas gérer les cas, parce qu'on ne connaît pas la situation, et surtout par méconnaissance de la situation et le fait qu'il n'y a rien pour donner un axe pour accompagner la personne et lui éviter d'avoir des problèmes à l'intérieur de l'école qui peut se transformer en échec scolaire et puis en difficulté à l'âge adulte. Donc cette campagne c'est bien, mais ça suffit pas.
Joël Demier, quand on parlait effectivement de transphobie à l'instant, quand un jeune trans est à l'école, est-ce que c'est facile pour lui que le prénom qu'il s'est choisi soit bien adopté, que donc le sexe qu'il s'est choisi soit bien adopté, dans lequel il est bien dans son corps, soit réellement adopté? Ou est-ce qu'il y a toute cette difficulté aussi d'être reconnu tel qu'il est dans le milieu scolaire?
Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le prénom d'usage, qui n'est pas forcément le prénom de naissance de la personne. Et nous, on plaide, on est en faveur du fait que l'élève, la personne, doit pouvoir utiliser le prénom qu'elle a choisi pour lui ou elle. Ce qu'on appelle le prénom d'usage. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas fait, ça n'est pas possible, parce que pour des raisons administratives. Mais là, il faudra que l'administration et l'éducation nationale évoluent sur ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, l'identité de genre des personnes trans, des jeunes personnes trans, n'est pas pleinement respectée.
Parce que l'administration, c'est une chose, et puis après, il y a dans la vie quotidienne le fait d'adopter tout simplement un prénom qui est celui qui a été choisi, même si c'est pas celui qui a marqué sur le bulletin scolaire. C'est compliqué également pour un prof de simplement appeler quelqu'un, Nadine ou Françoise, au lieu de son prénom masculin ou l'inverse.
En fait, on peut avoir des comportements complètement transphobes et on se cache derrière derrière l'administration, en fait. Par exemple, une personne trans qui sensibilise le corps enseignant, qui leur parle de leur être, de ce qu'elles sont, et qu'ils demandent des actions concrètes, par exemple le changement, la modification du prénom sur les listes d'appel, on va parfois lui dire que ce n'est pas possible parce que c'est comme ça, en fait. Et le « c'est comme ça », ce n'est pas une réponse, c'est plutôt une façon de cacher une transphobie ordinaire, et une violence faite par l'institution, en fait. Et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, on est complètement à l'opposé de ce qui se passe, par exemple, en Espagne. En Espagne, il y a un protocole dans la région de Madrid qui, justement, met en place les différentes étapes, justement, pour ne pas se retrouver dans une situation de transphobie institutionnelle face à une élève, parce qu'on sait très bien que les incidences dans sa vie en tant qu'adulte sont énormes. Donc une personne qui n'est pas respectée dans son identité de genre très jeune, quand elle est à l'école, elle va laisser les études en fait.
Blanche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en Charente-Maritime, Blanche, on vous écoute.
Tout à fait. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Rose, la première intervenante.
Sacrée Rose, ouais.
Oui, Rose, la demoiselle.
Oui, oui, qui nous a tous épatés, absolument.
Je n'ai qu'un mot à dire, il faut éduquer les parents. Les enfants répètent ce que les parents disent à table. Les interventions sont à faire plutôt auprès des parents que des enfants. Et l'éducation se fait tout court après.
Et c'est vrai que, merci beaucoup Blanche pour ce témoignage, et c'est vrai Joël Demy, on imagine aussi que, est-ce que les enfants répètent ce que disent les parents tout simplement?
Bien sûr, bien souvent, vous savez l'homophobie c'est pas quelque chose de naturel, ou la transphobie c'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose qu'on acquiert par l'éducation, par la société, par les médias, et donc oui, il faut former les adultes, et d'ailleurs nous on propose à SOS Homophobie formation pour adultes, dans les entreprises, dans l'administration publique.
Enfin c'est fou, moi ça me tue toujours en fait, une formation à pas être homophobe, rien que de le prononcer c'est quand même un peu dément, non, quand on y songe.
C'est dément, mais c'est la réalité hélas, et on doit et nous on a des cas de professionnels, enfin de d'adultes qui nous appellent sur notre ligne d'écoute et qui nous disent on a un cas de transphobie dans notre entreprise, on intervient dans l'entreprise auprès des adultes, donc oui, l'homophobie elle est présente dans toutes les générations.
Le fait que on parlait des jeunes adultes qui sont outés plus tôt, le fait que la pop culture s'en soit beaucoup emparée aussi, un certain nombre de feuilletons télé, y compris de très grandes écoutes, je pense à Plus belle la vie parce que ça a été les premiers par exemple.
Ça c'est essentiel.
Chez les gays, chez les trans aussi. Je pense à Bilal Hassani dont on parlait tout à l'heure, qui va faire l'Eurovision également.
Toujours des sujets sur les questions de lutte contre les LGBT-phobies qui sont toujours invisibilisés. Par exemple, la lutte contre la lesbophobie, la lutte contre la biphobie et aussi la lutte contre l'intersexphobie. En fait, ce qui nous manque aussi, c'est une culture du respect de l'autre. Et cette culture doit s'inscrire justement dans des programmes scolaires. Parce que c'est par l'éducation qu'on lutte également contre toute forme de violence. On pense à toutes les violences qu'on peut subir en tant que personne LGBT, mais à cette identité en tant que personne LGBT, s'ajoute d'autres composants de l'identité, comme la couleur de peau, donc il faut continuer à lutter contre le racisme, et d'autres éléments qui parfois sont violents pour les personnes.
Et je voudrais dire que vous disiez que vous parliez de la pop culture, c'est essentiel d'avoir des modèles positifs, connus, des figures qui s'engagent publiquement, qui disent oui, moi je suis lesbienne, je suis gay, je suis bi, je suis trans, et j'ai une vie banale finalement, et j'ai réussi ma vie. Et par exemple, Bilal Hassani, c'est un très bon exemple positif de réussite, hein, puisque
il est costaud,
on le voit,
Bilal Hassani.
Il est costaud, il est solide, il est fort. Et franchement, moi je suis très admiratif. Ça fait des semaines qu'il vit une déferlante de haine sur les réseaux sociaux. Il est insulté quotidiennement sur Twitter, et lui il dit, il continue quoi, il trace son chemin. Donc c'est un très bel exemple pour tous les LGBT, et c'est essentiel dans le milieu du sport d'avoir des grands sportifs, des grandes sportives qui s'assument, qui s'affirment, et il n'y a que comme ça que des ministres au gouvernement, d'avoir des ministres lesbiennes, des ministres gays, des ministres trans, c'est essentiel d'avoir des figures positives, et nous on a un site internet à SOS Homophobie qui s'appelle c'estcommeça.net, qui est conçu pour les jeunes LGBT, avec des définitions, des témoignages et des modèles positifs pour les jeunes LGBT, et j'invite les jeunes LGBT à consulter c'estcommeça.net.
Et ben comme ça c'est dit. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Puisqu'on parlait de sport à l'instant, ça
vous
concerne.
Oui, justement, oui, j'ai bien entendu. Oui, voilà, moi je suis dans le milieu sportif, je suis entraîneur de sportif en aviron. J'ai maintenant 62 ans, j'ai pas mal de temps passé à m'occuper de jeunes, et j'ai aussi fait une carrière de sportif de haut niveau, et j'ai fréquenté l'INSEP pendant 7 ans. Et je m'aperçois aux deux extrémités du spectre du sport en France, l'homophobie, il y a une forme pernicieuse d'homophobie dans la mesure où on n'en parle pas, les gens sont... Allô ? Allô ?
Oui, je vous entends,
pardon,
je vous écoute.
Pardon, j'avais un petit retour. Il y a une forme d'homophobie qui est pernicieuse, parce que, on ne dira pas, on ne prétend pas quelqu'un de pédé ou de lesbienne, là, comme ça, brutalement, il n'y aura pas d'agression. Mais par contre, il y a un silence qui est pesant et qui est peut-être plus dur à vivre que des mots durs et clairement dits. Ça se traduit, ben, c'est dans le quotidien des gens. Par exemple, dans une équipe de foot, enfin, moi je fais l'aviron, c'est un sport d'équipe, mais c'est pareil. Même un gamin qui on le sent peut-être, on dit peut-être qu'il est homosexuel et tout, ben, il fera pas partie de l'équipe, il sera pas accepté. Il y aura peut-être des entraîneurs qui le mettront pas dans l'équipe. Mmh. Ben oui, qu'est-ce qu'on dit, on va pas mettre un PD dans l'équipe. Vous voyez, il y a ce ressenti-là, quoi. Enfin, je dis ça, c'est pas moi.
Hein, oui, on a bien compris que vous nous expliquiez.
Et je pense qu'il y a des milieux, bon, moi je parle du milieu du sport parce que je le connais, c'est un milieu qui a du mal à s'assumer dans ses différences, qui a du mal à s'assumer dans ce qu'il peut y avoir de pernicieux, comme la pédophilie, enfin, tout ça. Le sport est un milieu qui a du mal à s'affirmer et à reconnaître ses petites tares comme il y a dans tous les autres milieux.
Merci beaucoup.
Je pense que c'est dur pour les... Il n'y a pas beaucoup de sportifs qui font des coming out, parce que je pense que ça va être très très dur de pouvoir s'assumer par rapport à ce climat qui est pesant.
Merci beaucoup Philippe de votre témoignage, Joël Demier. C'est vrai que le sport, vous parliez de modèle tout à l'heure, un footballeur gay, ça existe hein, forcément.
Oui, ça existe.
Mais en poster dans une chambre, on n'en connaît pas.
Non, ça existe, mais de plus en plus ça existe. Et moi je voudrais dire que malgré évidemment que l'homophobie elle est présente aussi dans le sport, elle est présente de manière générale dans tous les milieux où il y a une certaine culture viriliste. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits qui dit dans tous les milieux comme l'armée, les commissaires, enfin, la police, la gendarmerie, les pompiers, dans tous ces milieux virilistes, il y a beaucoup plus de sexisme et beaucoup plus d'homophobie. La question, c'est de savoir pourquoi. Parce qu'il y a des classifications en fonction des stéréotypes de genre assignés à chaque sexe. Donc, t'es un vrai mec quand tu corresponds à tel ou tel standard, t'es une vraie femme, ou tu n'es pas une vraie femme si tu n'es pas féminine comme ci, comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut repenser, c'est vraiment la question du genre en réalité. Et je voudrais dire que dans le sport, il y a quand même beaucoup d'espoir, puisqu'aujourd'hui, quand même, les clubs de rugby, les grands club de foot et de rugby sanctionne de plus en plus systématiquement les comportements homophobes. Je pense à Bastaro, un joueur de rugby français qui s'est récemment fait reprendre par la Ligue européenne de rugby, il a prononcé une insulte homophobe à l'égard de notre joueur, il s'est fait sanctionner. Donc c'est de plus en plus sanctionné. Donc il y a quand même une prise de conscience à la fois des clubs, et puis nous on intervient à SOS Homophobie dans des centres de formation, je pense à l'OM par exemple à Marseille, où on rencontre les jeunes, les jeunes joueurs, on lutte aussi contre les préjugés, contre les stéréotypes.
Mais d'ailleurs, et ça se passe bien, ça sincèrement, quand vous y allez, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous entend, que derrière on n'est pas en train de ricaner, en gros, pour dire les choses, est-ce que vous avez le sentiment que oui, avec cette génération-là, c'est en train de rentrer, ça marche en fait.
Oui, c'est en train de marcher, c'est-à-dire que quand on intervient, je vous dis pas que c'est immédiat et que l'effet est totalement positif tout de suite, mais en tout cas, on a on a interrogé, et parfois pour la première fois dans la vie des jeunes, hein, c'est la première fois qu'ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'une personne homosexuelle, en dehors du fameux PD, ils s'interrogent pour la première fois, et ne serait-ce que
mais
ça,
plus
c'est
généralement,
important.
Le sport, il véhicule beaucoup d'homophobie, beaucoup de LGBTphobie en général. Un des exemples, c'est le football, par exemple. Quand on voit dans la Coupe du Monde, une équipe dont les supporters sont en train de crier Puto, donc l'équipe donc les supporters mexicains qui sont dans un stade en train de crier Puto et qui veut dire PD, c'est la traduction des PD de façon tout à fait banale pour déstabiliser l'adversaire. Il y a ce message qui est renvoyé, c'est de l'homophobie ordinaire. Et au-delà de ça, dans le témoignage de Philippe, il y avait aussi cette
question
de
l'idée du silence. Moi, c'est ça que j'ai
retenu. En fait. Et en fait, moi, j'appelle ça les nouveaux LGBT-phobes, en fait. C'est les gens qui n'osent pas mettre des mots sur leur homophobie, en fait. Et qui vont cacher derrière des mots, des idées, toute cette LGBT-phobie. Un exemple, c'est l'administration Trump. Donc, qui empêche des citoyens trans de servir dans l'armée. Et quel est son argument? C'est de dire, ça coûte beaucoup trop cher. Alors que c'est, quand on regarde le budget, ça coûte vraiment un pourcentage qui est vraiment dérisoire. Mais dans ce genre de situations, on a beaucoup d'exemples, en fait. Et notamment sur les questions trans. Par exemple, les débats sur la question de l'utilisation des toilettes. Mais c'est très transphobe, en fait.
Bonsoir, Loïs.
Bonsoir.
Et bienvenue, Loïs. On t'écoute.
suis très émue de passer dans votre émission.
Eh ben, alors, prends ton temps, Loïs.
Merci. Alors, je suis en seconde à Nice, j'ai 15 ans, et j'assiste dans ma classe à des comportements très, très homophobes, mais assez violents. Donc je vous appelle pour témoigner. Dans ma classe, en plein cours, il y a souvent des débats du style « Si ton enfant, il est homo, tu fais quoi ?»« Ah ben, je le tue !» Ou « Moi, je vois un trans dans la rue, ben, je le tabasse !» Voilà, devant les profs.
Qui donc, eux ne disent rien, qui en tout cas ont pas les n'arrivent pas à canaliser ce genre de discours, comment ça se passe, la réponse?
Alors vraiment je veux pas jeter la pierre aux profs parce que c'est sans doute compliqué pour eux déjà, mais je sais pas s'ils voient ou pas en fait ces débats-là. Je sais pas s'ils les entendent, s'ils font la sourde oreille, je sais pas.
Et est-ce que autour de vous, Loïs, est-ce que vous essayez vous de mettre un frein à ces discours-là, ou est-ce que on peut pas leur parler, c'est compliqué de leur parler à ces gens-là?
Ben voilà, c'est justement ça. Moi, je suis vraiment une personne qui débat beaucoup, donc évidemment, je laisse pas du tout passer ça, et je passe des cours entiers à essayer de faire changer l'opinion de ces personnes, mais ils changent pas, ils ne changera pas. C'est impossible. Je sais pas comment je peux faire. Je sais pas si vous avez des conseils à me donner. Je sais pas si je devrais plutôt écouter le cours ou défendre cette cause qui m'est très chère. Je suis un peu perdue. Ça fait plusieurs fois maintenant que ça revient cette année. J'étais pas confrontée à ça les années précédentes. Voilà. Et pour amener mon témoignage.
Mais merci beaucoup, Loïs, parce que c'est important. Et Joël Demier, pendant que, qui t'entendait dire, je sais pas comment faire désormais, je voudrais des clés. Vous en avez, vous, Joël Demier, des clés pour Loïs?
Ouais, il faut pas laisser passer les propos que vous avez évoqués. C'est-à-dire, voilà, il faut, clairement dire que ce sont des propos homophobes qui ont des conséquences concrètes sur les victimes. Et c'est ça la clé. C'est-à-dire que, tes camarades se rendent pas compte que les propos qu'ils ont, ont des conséquences sur les victimes. Et moi, je t'invite, Loïs, à appeler, à contacter la délégation PACA d'SOS Homophobie. On est à Marseille, on intervient dans toute la région, et je crois qu'on a même une antenne à Nice, et il faudrait vraiment que deux intervenants qui sont formés chez SOS Homophobie viennent dans ta classe. Ça dure 2 heures, on fait des actions de sensibilisation, et ce serait vraiment utile dans ton cas, je pense.
Eh ben, je pense qu'on va aussi écouter David, et dans la foulée Jean-Pierre d'ailleurs, parce que qui sont enseignants tous les deux et qui disent un peu la même chose. David d'abord, bonsoir David.
Bonsoir.
On vous écoute David, allez-y.
Oui, moi je voulais simplement, par rapport au sujet de ce soir, témoigner du fait qu'à plusieurs reprises, bon, j'ai un fils aîné qui a 28 ans, et mon plus petit enfant a 9 mois et demi. Donc je suis sur une amplitude assez large, et qu'à plusieurs reprises, dans des conseils d'administration, j'ai toujours été élu parent d'élèves, et que j'ai essayé d'aborder la question de l'homophobie, parce que m'étaient revenus aux oreilles des témoignages vraiment, des choses qui étaient difficiles, vécues très difficiles sur le sujet. Et je voulais qu'on l'aborde, je voulais que l'on fasse un point, un temps fort à l'intérieur de l'établissement. Et à chaque fois, je me faisais, alors le mot direct, ce serait jeter, mais j'ai essayé à plusieurs reprises, entre guillemets, dans ma carrière de représentant de parents d'élèves, d'aborder le sujet, mais on me disait toujours qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus prioritaires. Alors moi, je voyais pas ce qui était plus prioritaire que ce qui motive, parce qu'il faut savoir que c'est une des premières motivations de suicide entre 16 et 21 ans. C'est quelque chose de terrible. Voilà. Donc moi, j'ai été interpellé par ça. Je ne suis pas touché au niveau familial par la question, mais par contre, ça m'a toujours interpellé. Voilà.
Merci.
Pourquoi
beaucoup.
On ne pouvait pas aborder ce sujet.
Merci beaucoup. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que vous êtes enseignant et vous dites peu ou prou la même chose que David, en fait.
Oui, je dis la même chose. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un lycée catholique, un lycée privé catholique. Et chaque fois que j'essaie de proposer de faire intervenir SOS Homophobie, par exemple, l'association, il y a un refus, non pas catégorique, mais effectivement, ce sera pour plus tard, ce sera toujours pour plus tard. Ce n'est pas le sujet prioritaire.
Et merci beaucoup Jean-Pierre, on a compris ce que vous nous disiez. Du même acabit ce que dit David, je voudrais vous lire un mail sur franceinter.fr. Je suis père d'un enfant transgenre dans l'établissement où il est scolarisé. Tout le monde refuse de l'appeler par son prénom d'usage car il n'y a pas de loi. L'institution devrait donner l'exemple. L'institution dans ces cas-là, l'institution quand un parent a envie d'évoquer le sujet, l'institution quand un prof a envie d'évoquer le sujet. En gros, on vous réclame partout. Qui sont ces administrations, ces institutions? Est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce que c'est certains proviseurs, certains professeurs? Les freins sont où, en fait?
C'est vrai que nous, on rencontre ce problème-là quand on fait des interventions, on propose des interventions en milieu scolaire dans certains établissements, notamment privés, religieux. Évidemment, il y a des refus. Il y a des refus. Et c'est un véritable problème aujourd'hui. On en a parlé au ministre de l'Éducation nationale, qui essaie de faire changer les choses, mais c'est un véritable souci qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que nos actions de sensibilisation n'entrent pas dans certains établissements, n'entrent pas dans certaines classes, alors que tout ce que nous souhaitons faire, ça n'est pas de militer, parce qu'on nous accuse souvent de faire du militantisme dans ces classes. Non, la lutte contre l'homophobie, l'homophobie est un délit
pénal.
C'est ça l'argument
qu'on vous donne, en fait. C'est vous faites de vous militez pour l'homosexualité, fermez les guillemets, c'est ça l'argument qu'on oppose.
On peut entendre ce genre d'argument, alors que c'est absolument faux et faux. La SOS Homophobie et l'ensemble des associations sont sous agrément du ministère de l'Éducation nationale. On respecte de nombreux critères qui nous sont imposés par l'Éducation nationale. Et il n'y a aucun militantisme dans nos interventions en milieu scolaire. Il y a simplement une action de sensibilisation pour faire reculer les préjugés et combattre les idées reçues sur l'homosexualité, la bisexualité, les transidentités et instaurer, comme le disait Clémence, une culture du respect pleinement conforme aux valeurs de la République.
Et d'ailleurs, sur cette campagne de sensibilisation, on est amené à se poser la question, est-ce que dans les institutions qui sont sous contrat, est-ce que dans les établissements sous contrat, est-ce que cette campagne va être visible, en fait? Et toute la question est là, justement, sur certains établissements refusent de lutter contre les LGBT-phobies. Et elles font la sourde oreille. Ça peut être simplement parce qu'on est dans une situation où ils ne sont pas obligés de l'afficher, ou tout simplement parce que parfois, du fait que certains enseignants font la sourde oreille, mais c'est parce que aussi les enseignants n'ont pas des mécanismes pour lutter contre les LGBT-phobies. Et il n'y a pas des moyens pour agir, donc comment leur réclamer d'agir alors qu'ils n'ont pas des outils pour lutter contre les LGBT-phobies?
Rapidement, enseignante en lettres depuis 10 ans au collège, j'ai de bonnes relations avec mes élèves, mais je l'avais envisagé d'évoquer le fait que je vis avec une femme. Les collégiens ne sont pas encore ouverts. Je leur conseille simplement certains films et certains livres. J'ai 26 ans, je suis homosexuelle. Après 4 ans à travailler, j'ai repris mes études et à la fac, je suis étonnée. Rien n'a changé, ni les comportements, ni les insultes homophobes. Et une toute dernière chose, Joël Demier, parce qu'on n'a pas le temps de prendre François au téléphone, mais je voudrais vous donner sa question, parce que c'est une question pour vous. J'ai une fille homosexuelle qui a subi beaucoup de difficultés à l'école, de ne pas pouvoir parler de ce qui a causé donc un décrochage scolaire. Les réseaux sociaux lui ont permis de s'exprimer. Comment peut-on aider nos enfants à en parler?
Il faut aider les enfants à en parler en les rassurant, en donnant des exemples positifs aussi de personnes LGBT, en disant que aujourd'hui la société a évolué, que l'homophobie est un délit pénal et que la loi est du côté des LGBT. Les pouvoirs publics qui ont longtemps persécuté les LGBT sont aujourd'hui du côté des LGBT. Mais je voudrais juste dire qu'il faudra faire aussi évoluer les programmes scolaires, parce que moi j'entends souvent, et j'entendais quand j'étais au collège, que par exemple Rimbaud et Verlaine étaient amis. Alors qu'en réalité, ils étaient ensemble, ils étaient homosexuels.
Moi, j'ai vu un compte Twitter totalement homophobe avec une photo de Rimbaud et on a envie de dire,
ces euphémismes n'ont pas leur place dans les programmes scolaires, dans les pratiques des enseignants.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Et pardon, je suis vraiment désolée. Merci de vos questions. Portez-vous bien.